Toujours à l'écoute du réseau FM+, le 91 MHz sur l'agglomération Montpellier-Rennes, le 103.1, l'agglomération nîmoise. Les méandres de l'amour, Agapé, et c'est très important, Eros. Donc on avait abordé dans la première partie de la saison, je dirais, l'Eros, et là on a atteint l'Agapé. Amour et perspective, belle chanson d'Edith Piaf, ça vraiment emporte.
Ah oui.
Et puis ça croise exactement ce que vous...
Ah, absolument. Absolument, les mots d'amour dépassent les individus, hein. C'est en quoi il y a transcendance du langage. À la fin, elle dit, au fond, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui sont en question, hein. C'est la voix de l'amour. Donc, l'amour est une sorte d'ange gardien au-dessus de nous, hein, et nous sommes, nous, la plupart du temps, infidèles, parce que, nous ne sommes pas à la hauteur de ces mots que nous prononçons, mais finalement, nous devons en être les serviteurs. Quand nous parlons, nous ne sommes pas avec les mots en situation de maîtrise, hein, mais au contraire en situation de service. Nous nous mettons à l'écoute des mots. Hein. Donc il faut que nous soyons dignes des mots que nous prononçons. Vous voyez, Redouane, j'ai dit tout à l'heure que j'étais agnostique, mais à mon avis, le langage est la seule transcendance possible. C'est un peu comme le Saint-Esprit qui descend lors de la Pentecôte sur la tête des apôtres sous forme de langue de feu. Hein. Les mots nous visitent, ils viennent en nous. Les mots, disait Victor Hugo, sont les passants mystérieux de l'âme. Vous voyez, les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Ça veut bien dire qu'il y a une transcendance de ces mots par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que nous sommes. Et alors, si je fais rimer amour avec toujours, même si étant, infidèle dans la vie ou étant imparfait, hein, eh bien, j'ai au moins été capable de faire ce serment. Hein, j'ai au moins été capable de faire une promesse. L'homme est le seul être qui puisse faire une promesse. Les animaux ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, ils n'ont pas de langage. Alors, je sais bien qu'ils communiquent. Hein, les abeilles et les fourmis communiquent en remuant le derrière, par exemple. Bon, ça j'entends bien, mais ils n'ont pas le langage articulé. Autant que nous le sachions, hein, Redouane, les animaux ne peuvent pas faire une promesse, un engagement, autant que nous le sachions. Je sais bien qu'il y a des animaux affectueux, ou les chats, ou les chiens, etc. Mais bon...
Disons que l'ordre social n'est pas le même. Quoique chez certains animaux, la notion de couple, de fidélité... est marqué, mais c'est pas le cas partout. C'est plutôt des luttes. C'est-à-dire, il n'y a pas d'amour, c'est l'appropriation.
Voilà.
Du cheptel.
Oui, c'est avoir la dominance, oui, effectivement. Hein. Dans cette notion de futur qui est liée au langage articulé chez l'être humain, me semble essentielle. Alors, prenons par exemple les paroles qui sont prononcées par le prêtre, hein, dans la liturgie du mariage. Alors, je m'excuse auprès des auditeurs, je viens d'un milieu catholique, donc quand je parle du prêtre, je parle de la liturgie catholique. Je ne sais pas ce qu'il en est en monde protestant, mais le prêtre en monde catholique dit aux nouveaux mariés « Je vous unis en mariage ». Bon, alors en français, cette formule n'est pas claire. Qu'est-ce qu'elle veut dire « Je vous unis en mariage » Par contre, elle devient très claire quand on la dit en latin. Alors là, elle est très précise et pleine de sens. C'est exactement comme dit l'ami Georges Brassens, sans le latin, la messe nous embête, si vous voulez, voilà, pour édulcorer ce qu'il dit. Il faut voir justement ce que l'expression dit en latin. « Ego coniungo vos in matrimonium ». Cela veut dire « je vous unis pour le mariage ». En effet, le mot « mariage », « matrimonium » est à l'accusatif, qui est le cas de la destination, du lieu où l'on va. C'est la question « quo ». Hein. Si cela avait été « je vous unis dans le mariage », au sens d'un lieu où vous êtes actuellement, il n'y aurait pas eu l'accusatif, lieu de la destination, mais l'ablatif, qui est le cas du lieu où l'on se trouve. Hein. C'est la question « ubi ». On aurait eu « ego coniungo vos in matrimonio ». Alors, vous voyez, on dit souvent, Redouane, j'en perds mon latin, dans l'expression courante. Hein. Eh bien, je pense qu'il ne faut pas en perdre son latin, hein, ici. Et que la formule « je vous unis pour le mariage » est beaucoup plus précise que « je vous unis en mariage », qui ne veut rien dire. Donc, je plaide pour le retour du latin. Alors, je ne sais pas si la formule est prononcée par le pasteur, « je vous unis en mariage », je ne sais pas.
Ça dépend de la formule, ça dépend aussi des différentes traditions luthériennes, réformées, mais c'est vrai que la notion qu'il y a derrière dans la formulation catholique est liée au sacrement, puisque le mariage est un sacrement, ce qui ne l'est pas chez les protestants.
Tout à fait.
Donc, du coup, le langage n'est pas si innocent que cela.
Ah, absolument. Alors, de toute façon, si on prend bien l'expression « je vous unis pour le mariage », on voit que le mariage est un but, une direction que l'on se propose, un objectif à réaliser et non pas un lieu où l'on serait déjà, où il suffirait de se reposer. Hein. La formule va dire « maintenant vous êtes marié, reposez-vous ». Non, ça veut dire « soyez digne du mariage qui vous attend, ouais, regardez vers le futur ».
On peut préciser peut-être, ça m'a échappé, il faut le dire aussi, ce type de formulation en fait est complètement absent du langage liturgique protestant, parce que pour autant, comme je disais, c'est un sacrement pour les catholiques, autant pour les protestants ça ne l'est pas, et du coup en fait on ne marie pas pour les protestants. Le mariage, c'est du fait de la laïcité et de la république. On se marie à la mairie.
Très bien.
Et on bénit le mariage.
Bah, c'est une bénédiction.
Voilà. Du coup, effectivement, cette formulation n'a pas lieu d'être.
Absolument. Par conséquent, le fait de marier les homosexuels ne se pose que pour l'Église catholique et pas pour l'Église protestante, puisqu'il s'agit de bénir simplement.
Tout à fait. Hein,
et seul pour un protestant a une valeur le mariage civil.
Oui.
C'est ça.
Oui. Mmh.
Tout à fait. Bon, alors, moi je pense que toujours dans cette optique d'un but, d'une destination, d'une finalité, le prêtre dit, en quelque sorte, implicitement aux nouveaux mariés, rien ne vous est donné aujourd'hui, vous avez toute la vie pour réaliser la promesse que vous venez de vous faire. Hein. Alors vous voyez, Redon, des fois il m'arrive de penser que le mariage devrait être non pas un brevet de réussite à un examen qu'on viendrait de passer, un permis de conduire et de se conduire définitivement délivré, hein, mais une période probatoire, un engagement conditionnel à se comporter de telle ou telle façon, et pourquoi pas alors une récompense à accorder seulement à la fin du parcours. Ce serait comme une décoration qu'on ne recevrait que si on s'en était rendu digne, vous voyez, comme une médaille, en quelque sorte, hein, hein. Pourquoi pas, à tout prix, hein. Alors, l'homme, me semble-t-il, ce qui le caractérise, c'est que c'est un animal parlant. Hein. En grec, on dit « zoon, logon, ekon hein, », c'est-à-dire animal possédant le logos. En latin, on dit « animal loquens hein. ». Eh bien, l'homme est le seul capable de faire une promesse. Et il est vrai, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, que du fait de sa faiblesse, il arrive très souvent qu'il ne tienne pas la promesse qu'il a faite dans la durée. Mais au moins a-t-il été capable de faire cette promesse. Et ça, ce n'est pas rien. Donc je ne défends pas spécialement le mariage hein, comme institution sociale, car le mariage est fait principalement pour protéger les enfants qui doivent naître du couple. Hein. Mais ce que je viens d'en dire montre comment il faudrait comprendre l'union d'un couple. S'il s'agit bien d'agapé, hein, c'est ce dont nous parlons maintenant, et non pas d'éros, il faut comprendre qu'on se situe ici, non pas dans une perspective de causalité, mais dans une perspective de finalité. Alors, si je garde par commodité ici les termes matrimoniaux, je dirais alors qu'on n'épouse pas quelqu'un parce qu'on l'aime, ce qui est le cas d'éros, hein, mais pour l'aimer, ce qui caractérise agapé. Hein. Donc on passe de la causalité à la finalité. Et épouser quelqu'un, ce n'est pas bénéficier immédiatement d'un privilège intangible, ce n'est pas satisfaire un rêve ou un désir personnel et narcissique, c'est s'engager à le rendre heureux ou à la rendre heureuse, vous voyez. Et ça, c'est l'affaire de toute une vie. Et alors, c'est clair la notion de fidélité, sous un nouveau jour, le mariage monogamique, qui est une absurdité naturelle. Hein. J'ai déjà souligné l'abstraction et le nomadisme potentiel d'Eros. Hein. Eh bien, il prend tout son sens si on oppose bien le désir qui ne dépend pas de nous et la volonté d'agir de telle ou telle façon qui, elle, dépend de nous. Par exemple, jurer fidélité à une femme, par exemple, hein, ce n'est pas s'engager à ne désirer qu'elle, ce qui est absurde. Je peux en effet désirer n'importe quelle femme que je croise inopinément dans la rue. Hein. C'est simplement lui promettre qu'on fera attention à elle toute la vie et qu'on fera tout son possible pour la lui rendre plus légère, vous voyez. Je ne sais pas si on fait des conseils sur la fidélité dans le monde protestant. Mais oui, en fait, ça se résout ce que vous avez dit. C'est une bénédiction, c'est-à-dire une espérance, quoi, hein, que ça marchera. Hein, c'est...
Disons, se prêter serment lors de la bénédiction, c'est se fixer, comme vous dites, le même regard vers un horizon qui est commun.
Voilà.
Rien n'empêche la tentation. C'est-à-dire, la tentation, elle est là, mais c'est un choix qu'on fait. C'est la question de la volonté. J'ai choisi cette femme, j'ai choisi cet homme pour cheminer ensemble. Après, ce serment engage le couple, n'engage pas vis-à-vis de l'Église. Ou vis-à-vis des témoins aussi, les témoins sont là pour accompagner.
Voilà. Alors j'ai choisi comme deuxième pause musicale une chanson qui était très ancienne, qui s'appelle « Parlez-moi d'amour », et j'ai choisi la version de Nana Mouskouri.
Toujours à l'écoute du réseau FM+, le 91 MHz sur l'agglomération Montpellier-Rennes 103.1, sur l'agglomération nîmoise, les méandres de l'amour, Eros et Agapé, et toujours en compagnie de Michel Théron, avec le troisième volet de notre émission sur la thématique amour et perspective.
Voilà, alors donc dans cette chanson, qui est un petit peu kitsch bien sûr, hein, donc un peu eau de rose, hein, on peut s'en moquer, mais enfin je pense qu'il vaut mieux, comment dire, même être naïf et heureux que lucide et malheureux, hein, il me semble. Hein. Donc on voit le besoin que l'homme, l'être humain, a besoin, le besoin qu'il a de serments, de promesses. Hein. Voilà, j'ai besoin justement d'un engagement. Et alors c'est l'occasion de réfléchir à la fidélité. On a commencé d'en parler, Redouane. Qu'est-ce que ça veut dire être fidèle à quelqu'un? D'abord, ce n'est pas seulement ne pas lui être infidèle, ne pas le tromper ou la tromper. Hein. Parce que si on ne trompe pas sa femme, mais si on le lui fait payer en quelque sorte en lui faisant la tête tous les jours, est-ce qu'on l'aime vraiment, hein? Je pense qu'il y a des maris qui ne trompent jamais leur femme, mais dont toute la conduite montre qu'il ne se passe pas de jour qu'il ne le regrette, vous voyez. De la même façon, il y a des êtres qui ne font jamais rien de malhonnête, mais dont toute la vie n'est qu'une malhonnêteté. Hein. Alors, René Char, dans un poème qui s'appelle « Qu'il vive », dit « Dans mon pays, on n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté ». Alors, ce qui compte ici, c'est bien l'idée d'augmentation. Aimer véritablement quelqu'un, ce n'est pas le laisser en l'état où nous l'avons trouvé lorsque nous l'avons rencontré pour la première fois, mais au fil de la relation que nous avons décidé de nouer avec lui ou avec elle, œuvrer pour que soit augmentée sa richesse et ses possibilités. Et c'est de là que vient l'autorité d'agapé. Le mot autorité vient du latin auctoritas, qui renvoie lui-même à augere, augere, verbe qui veut dire augmenter. Hein. C'est l'augmentation. Et c'est le sens de la fameuse parabole. Bien sûr, Redouane, là, vous auriez peut-être beaucoup de choses à dire, la fameuse parabole des talents, qui m'a toujours impressionné. Hein. On la trouve dans Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Hein. Donc, rendre le talent seulement intact, comme le font, je crois, les deux premiers serviteurs, hein, comme le fait le dernier serviteur.
Le dernier.
Voilà, je passe sous votre contrôle, Redouane. Le dernier serviteur, les deux premiers, ils ont fait fructifier le talent. Donc, rendre le talent tel que nous l'avons reçu, nous expose à la malédiction du maître, quand le maître revient. Hein. Au contraire, nous devons faire fructifier le talent et le rendre augmenté, vous voyez. Je vais prendre un autre exemple. Si notre meilleur ami part en voyage, et s'il nous confie son enfant, nous devons, lorsqu'il reviendra, le lui rendre non pas tel qu'il nous l'a donné, mais le lui rendre augmenté des connaissances et de l'éducation que nous lui aurons prodiguées, vous voyez. Donc, on ne nous sommes pas à une restitution ad integrum, c'est-à-dire dans l'intégrité du dépôt, hein. Pas plus que dans le domaine religieux ou moral, on ne nous conseille pas une obéissance aveugle aux interdits, éventuellement contenus dans les commandements et les préceptes qui nous ont été inculqué. Vous voyez, Redouane, ce qui me gêne dans certains commandements du décalogue, des dix paroles, c'est qu'il y a simplement des interdictions. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, etc. Mais ça ne suffit pas, l'interdiction. Il faut une augmentation. Peut-être que l'Évangile, par exemple, a ajouté cette idée d'augmentation. Il y a aussi une parabole, je crois, dans Luc, hein, où il s'agit de serviteurs qui ont fait tout ce que leur maître leur avait demandé, et puis le maître les reprend en leur disant « Mais non, vous n'avez pas fait assez. » Vous voyez ?
Peut-être la différence entre les deux, c'est que Moïse se trouve face à l'anarchie du peuple d'Israël. Et face à cette anarchie, il va essayer de mettre de l'ordre. Et mettre de l'ordre, voilà, ça n'est pas permis.
Voilà. C'est une première étape.
C'est une première étape, et je pense que Jésus, justement, quand il dit « je vais accomplir », c'est justement, il augmente.
Voilà.
Ça rentre tout à fait dans ce que vous dites.
Voilà, il dit « ou catalusai à la plérosai », je ne suis pas venu pour abolir, mais plérosai, alors parfaire, accomplir, perficere en latin, voilà, c'est-à-dire ajouter quelque chose. Par exemple, tu ne commettras pas d'adultère. Bon, c'est une interdiction, mais tu devras rendre ton compagnon ou ta compagne heureux ou heureuse, c'est plus positif, si vous voulez. Hein. Ne pas tromper, ça ne suffit pas. Hein. On nous engage toujours à une augmentation, un dépassement des seuls interdits.
La question qui se posait, tu ne commettras pas d'adultère aussi pour cette époque-là, c'est la question de la filiation. Parce que, je veux dire, on est juif par la mère. Et c'est pour cela que la question qui se pose lorsqu'on amène la femme adultère à Jésus, on n'amène pas l'homme adultère. Puisque voilà, la transmission, elle est là, et tout le noyau, il est là.
Absolument. Absolument. Et bon, il y a une chanson de Brassens qui dit « Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière ». Ça montre bien que la lapidation de la femme adultère est un usage archaïque, peut-être, qu'il faut maintenant dépasser. Hein, et il faut remplacer l'obéissance stricte à des défenses, à des interdits, par l'action positive. Hein. Ne pas faire ne suffit jamais. Il faut faire, il faut prendre le risque de faire. Seul faire vaut. Et il y a dans l'évangile selon Thomas, que j'aime beaucoup, hein, et auquel nous avons consacré une série d'émissions, un logion qui est assez terrifiant, hein, je le dis, c'est le logion 70. « Quand vous engendrerez cela en vous, ceci que vous avez vous sauvera. Mais s'il vous arrive de n'avoir pas cela en vous, ceci que vous n'avez pas vous tuera. » Vous voyez, hein. Alors, transposé à l'amour, cela dit la chose suivante. Si vous apportez quelque chose à l'autre, la relation sera vivante. Mais si vous le laissez tel quel, si vous ne lui apportez rien, la relation, elle mourra. Hein. Autrement dit, il nous faut souhaiter d'être aimés non seulement pour ce que nous sommes, mais pour ce que nous pouvons devenir par la relation qui aura été nouée, vous voyez. Donc, ne nous contentons pas de ne pas désobéir aux commandements éventuels. Hein. Essayons d'agir positivement. Hein. Alors souvent, quand on se targue justement de, mettons, de l'honnêteté, eh bien, on a l'air de ne jamais en être revenu. Alors ça fait regretter ce que l'on a fait. Par exemple, si je me promène dans la rue, vous voyez, si je vois un billet de banque, bon, alors ne soyons pas angéliques. Chacun a envie d'abord de garder pour soi le billet de banque. Bon, mais ensuite, deux cas de figure se passent. Hein. Eh bien, ou bien je vais rapporter le billet de banque ou le portefeuille, hein, au commissariat, et alors deux cas de figure. Je n'y pense plus, et dans ce cas-là, c'est parfait. Ou bien, je pense toujours à ce que j'aurais pu faire, le garder pour moi, vous voyez. Donc, c'est cela, quand je dis qu'il y a des gens qui ne font rien de malhonnête, mais dont toute la vie n'est qu'une malhonnêteté, c'est tous ceux qui se disent « j'aurais pu mal agir », hein, et qu'ils regrettent, alors que les âmes nobles, au contraire, font ça tout à fait naturellement et n'y pensent plus. Vous voyez, dans certains comportements, nous font regretter l'action que nous avons faite. Hein. Alors, ici, c'est une question, cette action positive, agapé, c'est agir, c'est l'action, hein. C'est une question de liberté et de choix. Alors, le choix et la liberté dépendent de nous. Alors, aimer non pas au sens de subir, comme dans la passion, au sens étymologique du mot, patior pati, subir, mais au sens de choisir librement, se dit en latin diligere. Et ce mot est de la même racine, le latin legere, qui a donné notre mot élection. Mais on trouve diligere dans prédilection, et notre vieux mot dilection, hein. C'est un mot un peu désuet aujourd'hui. Et agapé, qui est un amour basé sur un choix volontaire, serait donc un amour de dilection. Et la Vulgate traduit toujours de façon significative le verbe agapan dans le Nouveau Testament, non pas par amarrer, hein, mais par diligere. Et alors, finalement, cet amour d'ilection, en vertu de ce que je viens de dire, ne vise que le bien de son objet. Donc il ne s'agit pas d'obéir, je le répète, aveuglément et machinalement à des interdits culturels et sociaux, en risquant de le regretter et de devenir maussade pour cette raison, mais simplement de vouloir activement du bien à l'autre. Et alors, poussé à l'extrême, cette position peut faire fi de toutes les normes et de toutes les règles morales. Par exemple, la femme pécheresse est pardonnée par Jésus parce qu'elle a beaucoup aimé, en Luc chapitre 7, verset 47. Le texte grec, c'est « oti egapesen polu », car elle a montré beaucoup d'amour. Hein. Et alors, malheureusement, on a décrété en chrétienté hérétique les agapètes, hein, ou les béguines et les bégards, qui pensaient que l'amour justifiait tout. Les hérésiologues les ont condamnés, en les calomniant sûrement. On a même brûlé en 1310 la pauvre Marguerite Porrette, qui était auteure de l'admirable « Trésor des âmes simples et anéanties », et qui seulement demeure en vouloir et désir d'amour. Hein. Et Marguerite Porrette voulait faire passer l'amour avant toutes les lois. Cette position s'appelle antinomisme, nous en avons parlé dans notre série d'émissions sur les hérésies. Et c'est vrai que l'amour ainsi conçu, qui vise le bien de l'autre, qui se propose un projet, n'a rien à faire finalement avec les lois, le catalogue, si vous voulez, des infractions et des peines, un catalogue, vous voyez, hein, œil pour œil, dent pour dent, etc. Voilà, hein. Donc l'amour n'a rien à voir avec cela. Et Pascal disait très bien que la vraie morale se moque de la morale. Et dans le film de Marcel Carnet, Les Visiteurs du soir, hein, l'héroïne dit au diable, pour justifier qu'elle a été parjure, tout est permis à ceux qui s'aiment, vous voyez. Mais là-dessus, saint Augustin a tout dit, en s'adressant à un disciple qui lui demandait ce qu'il devait faire. « Qu'est-ce que je dois faire ?» lui disait-il. Eh bien, Augustin répondit « Aime et fais ce que tu veux. » Diligé et fac quod vis. Alors attention, ça ne veut pas dire satisfait tous tes désirs. C'est pas ça du tout. Diligere, hein, c'est choisir, hein, amour de dilection. Hein. La môme crevette dans La Dame de chez Maxime de Feydeau dit toujours « Et vas-y donc, c'est pas mon père », vous voyez. Donc, ce n'est pas de ça qu'il est question. Aime et fais ce que tu veux. Hein. Alors, pour illustrer justement ces dernières considérations, j'ai choisi le beau poème de Georges Brassens, « Les sabots d'Hélène », qui nous invite à savoir trouver le meilleur, les plus belles choses, dans les choses les plus méprisées, qui apparaissent les plus laides au premier regard.
Les sabots d'Hélène étaient tout crottés, les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés. Moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés. Son jupon de laine était tout mité. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de le retrousser, le jupon d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée sous le jupon de la pauvre Hélène, sous son jupon mité. Moi j'ai trouvé des jambes de reine et je les ai gardées. Et le cœur d'Hélène ne savait pas chanter. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de m'y arrêter dans le cœur d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée, et dans le cœur de la pauvre Hélène qui avait jamais chanté. Moi j'ai trouvé l'amour d'une reine et moi je l'ai gardé.
Voilà, alors on entend bien dans cette chanson le thème suivant, à savoir ce qui est important, c'est le regard que nous portons sur les êtres. Cette Hélène, elle est peut-être pas très belle, mais il faut savoir qu'elle recèle des merveilles en elle. Alors, il me semble, et là Redouane, vous serez sûrement d'accord avec ça, que Jésus, dans l'Évangile, nous dit que ce qui est impur, ce n'est pas ce qui entre en nous, mais ce qui sort de nous. Hein. Donc, si nous avons un regard impur, c'est-à-dire diabolique, mélangé, enténébré, avec arrière-pensée, eh bien, nous allons souiller ce que nous regardons. Alors que si nous avons un regard pur, hein, eh bien, au contraire, les choses vont nous apparaître complètement magnifiées. Et c'est ça le rôle dévolu à Agapé et à la dilection.
Merci Michel. Donc, on continuera la semaine prochaine. Donc, on vient de terminer le paragraphe Amour et perspective. Et la semaine prochaine, vous nous invitez à réfléchir sur de la sidération à la considération. Et pour cela, une semaine d'attente. Hein. Sinon, vous pouvez toujours acquérir le livre de Michel, Méandre de l'amour, Eros et Agapé, aux éditions Dervy. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même longueur d'onde. Et entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.
Au revoir à tous.